Depuis ma naissance, j'ai toujours rêvé de liberté. Priseur de rêve en terminale où j'ai appris que la liberté est malheureusement inatteignable. Merci à la philosophie, je me suis quand même rattrapée avec un très opaque. Je suis Laetitia et bienvenue sur mon podcast Chill Talking and Reading où l'on voyage de page en page ou d'idée en idée à la découverte des genres littéraires. Romance, fiction, fantasy, poésie, polar ou grand classique, j'espère que tu es prêt pour l'aventure. Installe-toi parce que ça commence maintenant. Pourquoi est-on là? Qu'est-ce que le bonheur? Faut-il croire au destin? Pas besoin d'avoir toutes les réponses pour philosopher ou même penser autrement. Il suffit juste d'oser poser la question. Alors aujourd'hui, je t'emmène dans un voyage de l'esprit et pour cette aventure intérieure, je suis accompagnée de Luc, un très grand fan de Spinoza. Je te rassure, ça ne va pas durer 4 heures. C'est quoi pour toi la philosophie? Un art, une science, un mode de vie?
Pour moi, la philosophie, c'est principalement un mode de vie, puisque ça détermine ta façon d'évoluer, ton rapport avec les autres. Donc, ça ne peut pas être quelque chose de contemplatif, une science, une recherche ou un art.
Quel philosophe t'a marqué en premier et pourquoi ?
Mon abord de la philosophie s'est fait à travers l'histoire de la philosophie. Et l'histoire de la philosophie commence principalement par les philosophes grecs ou les présocratiques. Et ensuite, ça donne envie de découvrir l'évolution de la pensée qu'en ont fait les hommes qui ont suivi, en s'inspirant souvent des premiers philosophes.
Ok, et du coup, quel philosophe t'a marqué en premier?
Socrate.
Socrate? Puis Platon, puis Aristote, puis...
Voilà. Enfin, Socrate, bien entendu, vu par Platon, puisque
mais oui.
Ce brave homme, on en sait assez peu de choses, on sait sous que c'est Platon, et Platon n'a pas manqué de mettre sa patte dans les différentes retranscriptions de ce qu'il est censé avoir vécu et entendu de Socrate.
Ok, du coup c'est pareil pour Aristote, qui a du coup repris les idées de Platon.
Exactement.
C'est vraiment un petit train, cela. C'est assez marrant. Quel livre de philosophie tu conseillerais à quelqu'un qui veut commencer sans se décourager?
Alors, un livre qui m'a marqué et qui, je pense, peut servir d'introduction, puisque, en fait, pour moi, lire un livre de philosophie, c'est pas évident. Il faut connaître le philosophe, il faut connaître l'évolution de sa pensée. Donc, pour moi, il est plus important de partir sur une histoire de philosophie. Il y a un très bon professeur, qui a été le professeur notamment de Michel Onfray, qui s'appelle Lucien Gerfagnon, et qui d'ailleurs ne s'appelait pas philosophe, mais professeur d'histoire de philosophie. Et il a écrit tout un tas de livres, j'en ai pas particulièrement plus à conseiller l'un que l'autre, mais il écrit d'une façon tout à fait claire, facile, et ça nous aide à avoir déjà une idée des premières idées qui ont été transmises par la suite et qui permettent d'avoir une chronologie et une source des idées qui, par la suite, ont été reprises et évoluées par beaucoup d'autres philosophes.
Ok, et du coup, en fait, c'est vu que c'est fait sous forme de roman plus philosophique avec une histoire, c'est pour ça que c'est assez accessible.
Un romancé, c'est une histoire chronologique de la pensée grecque, mais... exprimé avec des mots très accessibles, pas de mots savants, et donc c'est très bien écrit, et ça se lit effectivement un peu comme un roman.
Moi je sais que c'est un livre que mon père m'avait recommandé, c'est Le prophète de Kali Gibran, tu connais ?
Pas du tout.
Pas du tout ? Bon, je sais pas si c'est exactement philosophique, mais c'est un monsieur, du coup il a écrit ça quand il avait 15 ans, qui est assez surprenant parce que moi, quand j'avais 15 ans, ben, j'étais pas du tout là, très clairement. Et je trouve que c'est assez accessible. C'est pas très long. C'est 80 pages et il aborde différents sujets, que ce soit la famille, la religion, etc. Et il apporte un peu sa manière de penser. Et c'est très, très sympa. C'est surtout que, du coup, il a écrit ça quand il avait 15 ans. Et après, il l'a réécrit plus tard en anglais. comme quoi son premier roman lui est resté toute sa vie. As-tu déjà lu un texte philosophique qui a changé ta manière de voir la vie ?
Un texte philosophique, proprement dit, non. Il s'agit plutôt de plusieurs textes philosophiques. En lisant différents philosophes, on va accueillir dans chaque philosophe des paroles qui résonnent en soi et qui servent à construire un peu ta propre philosophie et ta manière de voir la vie.
En fait, on est un peu comme au marché. Exactement. On va prendre des pommes chez Kant. Ensuite, on va à la poissonnerie prendre un peu chez Nietzsche. Je suis assez d'accord avec ça. Oui, il y a certaines idées qui résonnent plus particulièrement en nous, mais c'est justement l'accumulation d'idées et afin de se les approprier aussi pour avoir notre propre manière de penser.
Voilà, on essaie de construire sa pensée souvent à partir de celle des autres et garder, on jette, on prend, de manière à construire sa propre philosophie.
C'est clairement ça. Est-ce qu'il y a un livre de philosophie que tu as abandonné ?
Alors, j'ai essayé de lire Deleuze, très nettement, ou la dixième page. Je ne comprenais pas les mots, je ne comprenais pas la pensée, et je ne voyais pas où ça pouvait aboutir. Donc, j'ai rapidement arrêté.
Moi, j'ai abandonné, c'était Schopenhauer. C'était compréhensible. C'est juste ces idées m'insupportaient. Le manque de considération auprès de la femme, auprès de même des différentes ethnies, ça m'a insupportée parce que je trouve que philosopher, c'est aussi avoir une certaine ouverture d'esprit. Et le fait qu'à travers ce qu'il disait, bon, il a tout à fait le droit de penser ce qu'il disait parce qu'on n'est pas du tout à une même époque, etc. Mais justement, de manquer un peu de cette ouverture d'esprit dans ses idées, ah mais ça m'a complètement fermé. T'as lu Schopenhauer ou pas du tout ?
Oui, j'ai lu Schopenhauer. C'est pas pour moi un grand philosophe. Je l'ai lu, mais j'ai pas retenu énormément de choses.
Non, moi, on m'a prêté le livre, donc j'ai pas eu le choix. Est-ce que tu penses qu'on peut philosopher sans lire de la philosophie ?
Oui, je pense que la philosophie, c'est principalement se poser des questions. Alors, il faut être très fort pour y trouver des réponses sans l'aide de gens qui t'ont précédé, qui se sont posé les mêmes questions, qui ont essayé également de se poser des réponses à ces questions. Mais je pense que quelque part, on repart tous à zéro, puisqu'on va créer sa propre philosophie. Et donc, pourquoi pas philosopher sans lire ? Je pense que la première philosophie, c'est de regarder autour de soi, c'est de regarder la nature, c'est de regarder l'être qui est en face de toi. Et à partir de là, tu peux construire ta propre philosophie sans lire. Mais ça aide de lire.
Oui.
Ça ouvre peut-être à des choses auxquelles tu n'aurais pas pensé.
Oui, à d'autres idées. Et puis, c'est surtout que des moments, on pense d'une certaine manière et on se rend compte que certains philosophes ont déjà évoqué ces idées. En fait, c'est juste qu'on n'a pas la connaissance de savoir que ce tel ou tel philosophe on a déjà parlé vu qu'on n'a pas forcément lu ou sinon on le découvre en terminale.
La seule chose que tu peux constater, c'est qu'en ayant lu beaucoup de philosophes, personne n'a une véritable réponse.
Non. On peut trouver une réponse à soi. Moi, je sais que sur certaines questions, j'ai une idée de réponse à moi, mais du coup, qui m'appartient. Mais effectivement, si on pousse vraiment le sujet à fond, des fois, il n'y a jamais vraiment de vraie réponse.
Et ta réponse est-elle définitive ?
Oui, elle peut évoluer aussi, exactement. C'est ça, le process de réflexion qui ne s'arrête jamais. Est-ce qu'on peut trouver de la philosophie dans un roman, un poème ou même une chanson ?
Bien sûr, je pense que dans beaucoup de romans abordent des questions philosophiques importantes. Moi, les premiers romans qui m'ont très interpellé, le premier, c'est les romans des frères Karamazov de Dostoïevski qui posent les questions du rapport du bien, du mal, qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal, et c'est un roman que je conseille. très prenant, très bien écrit, bon, avec des personnages qui sont un peu jusqu'au boutistes, qui sont peut-être aujourd'hui dans une société où tout doit être lissé, mais qui en tout cas m'ont marqué dans ma jeunesse.
Même, je trouve que c'est une première bonne approche, justement, de l'avoir dans un roman, un poème ou une chanson, parce que souvent, le mot, il fait peur. Penser, réfléchir, des fois, peut faire, pour faire peur. Du coup, d'avoir cette approche de réflexion dans un roman ou dans l'art, je trouve que c'est un peu plus rassurant que directement de rentrer dans l'idée, dans... des fois, c'est des réflexions quand même compliquées et lourdes, hein, et qui empêchent même de dormir. Faut se le dire. Donc non, je pense que ça peut être une bonne première approche. Je sais pas si t'es d'accord.
Oui, tout à fait. De toute façon, la philosophie doit se retrouver partout. Devant un poème, devant une chanson, ou même devant un paysage, qui interpelle, ou aussi quand tu commences la nuit dans une nuit étoilée, ça te questionne sur ta place dans l'univers et tu commences déjà à philosopher.
C'est vrai. Ah, je suis assez d'accord quand regarder les étoiles et de se rendre compte de l'immensité et que nous, on est juste une micro-poussière.
Quelle est ta place?
C'est ça. C'est vrai que cette question, à chaque fois que je regarde le ciel, en tout cas l'immensité dans la nuit, c'est vrai qu'elle revient tout souvent. Voilà. Et j'ai toujours pas trouvé la réponse. Hein. Ensuite, on va passer à un petit jeu. C'est un tu préfères. Donc, je vais donner deux options et tu vas me dire celle que tu préfères. Tu peux développer un peu, mais sans trop. Mais l'idée, c'est quand même de faire un choix. Faut trouver une réponse. Tu préfères relire Platon ou découvrir Nietzsche?
Ah, je serais plutôt découvrir Nietzsche.
Ouais, je comprends. Moi, j'aime bien Nietzsche parce que je trouve qu'il est un peu à contre-courant de ce qui a pu être fait.
D'abord, il pensait beaucoup en marchant et je pense que c'est l'activité la meilleure pour pouvoir philosopher.
Ok.
Si vous voulez philosopher, marchez. Et au bout d'un moment, vous serez seul avec vous-même et vous vous poserez forcément des questions.
Ok. Et sinon, tu préfères philosopher autour d'un café avec Socrate ou faire une balade avec Montaigne? Oh, je suis originaire de Bordeaux, donc fais attention à Montaigne.
Ben, Montaigne a été pour moi le premier philosophe, le plus proche de l'humain. On n'est pas dans des envolées spirituelles, on est dans le pratico-pratique, mais qui guide ta vie au quotidien, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Montaigne.
Ah, cool. Bordeaux l'emporte. Tu préfères savoir toutes les réponses aux questions ou avoir toujours une nouvelle question?
La vie n'est qu'un éternel questionnement, donc j'espère avoir toujours de nouvelles questions pour apprendre de nouvelles choses.
Ok. Tu préfères lire un livre qui change ta vie ou 1000 livres qui t'apportent chacun une petite idée?
Je préfère 1000 livres parce que je doute de trouver le livre qui réponde à toutes mes questions et je découvrirai de nouvelles idées et qui construiront une nouvelle fois ma philosophie qui n'est jamais fixée, qui se construit chaque jour.
Non, mais je suis assez d'accord parce que si on a lu un livre, on va plus vouloir lire les autres, on va s'arrêter à celui-là, donc non, avoir 1000 livres qui justement chacun apporte une petite pierre à l'édifice et ça permet de jamais arrêter de lire. Tu préfères chercher la vérité ou vivre dans une illusion du bonheur?
Je pense que la vie est une recherche de vérité qu'on n'atteindra jamais. Illusion du bonheur, d'abord il faudrait pouvoir définir le bonheur. Et donc le questionnement n'est pas toujours facile, le questionnement apporte pas forcément le bonheur, mais le questionnement est l'essence même de la vie.
Ok, on part pour la recherche de la vérité. Tu préfères suivre la raison comme Descartes ou suivre tes passions comme Nietzsche?
Alors, cette question me ramène à Spinoza, puisque Spinoza dit que pour trouver la béatitude ou la vertu, il faut faire usage de la raison. Donc, Je prendrai la raison de Descartes, mais je l'appliquerai sur la méthode Spinoza.
Ok, ok. Non, moi, je suis 100% sur ses passions. Et d'ailleurs, ça me met des fois dans de sacrées situations.
Je te rappelle que Nietzsche a mal fini.
Ah.
En suivant ses passions.
Ah bon?
Il a
fini comment?
Il a été fini interné.
Ah, c'est un juste milieu, mais il faut choisir. Mais je pense que je suis plus team quand même passion, même à finir à l'hôpital. Tu préfères philosopher seul dans la nature comme Rousseau ou au cœur de la ville comme Socrate?
Je pense que la nature est quand même l'endroit le plus favorable à la réflexion. La ville est pleine de gens, c'est le principe de la ville, et bruyante, et pas forcément dans ma capacité d'y trouver une place pour y réfléchir sereinement.
Et surtout que Socrate lui adorait discuter. C'est pour ça qu'il était en ville. Tu préfères que la vie ait un sens précis ou qu'elle soit une page blanche à inventer?
Alors, une fois de plus, je vais revenir vers Spinoza.
Je vous l'avais dit, hein.
Le sens lui-même, Spinoza ne donne pas forcément le sens de la vie. Il indique que met la place de Dieu donc un peu partout, c'est-à-dire que contrairement à beaucoup de philosophes, Dieu n'est pas transcendant mais immanent. Ça pourrait en faire bondir quelques-uns. Et d'autre part, il nous affuble d'un destin. Chose que la vieillesse qui s'approche m'apporte beaucoup d'éléments pour confirmer ce point de vue. Mais ça reste tout à fait personnel.
Ah, du coup, tu penses que chacun a un destin à réaliser?
Tout à fait.
Ok.
Comme le pense Spinoza.
D'accord. Ben, je pense que quand on est jeune, en tout cas, je ne vais pas dire comme moi, mais c'est bien de voir ça aussi comme une page blanche et qu'on peut être quand même maître de certaines choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas attendre que tout nous arrive ou quoi que ce soit. C'est dans le sens, on veut faire quelque chose, il faut y aller par soi-même. Donc, je pense que du coup, via mon âge, etc., je partirai sur la page blanche à inventer. Mais je comprends tout à fait que, ben, on peut se dire que la vie a un sens précis, parce qu'à un moment donné, on est. Moi, je pars du principe, si j'ai eu l'opportunité de naître, c'est pas pour rester au bord d'une plage toute ma vie. C'est pour vraiment essayer d'avoir un impact sur la planète, même s'il est minime. Donc, je conçois, mais du coup, l'impact, mais en inventant moi-même ma page blanche. Et je pense que c'est juste la fougue de la jeunesse. Tu préfères être reconnu comme un philosophe ou être heureux sans jamais à réfléchir à la philosophie?
Il m'importe assez peu d'être reconnu comme philosophe. Être heureux sans jamais réfléchir à la philo. Je préfère philosopher pour tenter d'être un peu heureux par rapport à ce que cette réflexion m'apporte.
Après, moi, si je peux prendre le bonheur, je prends le bonheur.
Il prévient pas, il passe, il est là, il s'en
oui.
va.
Et on s'en rend compte qu'on l'avait une fois qu'on l'a perdu.
Exactement.
C'est tout le principe du bonheur. On repasse à une série de questions. Et justement, ça, c'est plus par rapport à, en fonction de toutes les lectures que tu as pu faire, comment tu définirais ta propre philosophie aujourd'hui?
Définir ma philosophie. Ma philosophie est faite de tout petits cailloux qui servent à édifier une maison dans laquelle je pourrais me sentir bien. Petits cailloux, c'est les idées que j'ai prises à droite à gauche, c'est celles qui ont résonné en moi, c'est celles qui me tranquillisent, je dirais. Les philosophes ont tous plus ou moins expérimenté, c'est l'angoisse existentielle. Et pour répondre à cette angoisse existentielle, ben, quand un philosophe t'amène une petite réponse qui te tranquillise en disant oui, ça c'est pas faux, ça expliquerait un certain nombre de choses. Tu la gardes jusqu'à ce qu'elle soit remise peut-être en question par rapport à une autre réponse qui est donnée par un autre philosophe. Et on avance à petits pas sur un chemin et on essaye peut-être effectivement d'être un peu moins angoissé par toutes les réponses qui nous sont apportées et auxquelles on peut adhérer ou non.
Ok, je vois. Mais du coup, cette angoisse existentielle, elle grandit de jour en jour, non ?
Oui, non. Dans la mesure où elle est calmée par des réponses auxquelles tu as adhéré, l'angoisse existentielle peut-être augmente peut-être en vieillissant puisque la fin approche. Et ça te permet, la philosophie te permet peut-être d'aborder cette fin plus sereinement que si tu n'avais pas cherché à calmer un peu cette angoisse existentielle.
Du coup, ensuite, quelle question existentielle revient souvent chez toi ou celle qui te suit toute ta vie ? Quelle réflexion te quitte jamais ?
À quoi je sers ? C'est la recherche principale, pourquoi suis-je ici ? Je pense que c'est... On revient toujours à la même question existentielle.
Mais c'est la première qui vient à l'esprit.
Mais Spinoza amène des réponses, mais n'amène pas une réponse à ma connaissance.
Ah, et du coup, il amène quoi comme réponse ?
Il t'explique ton fonctionnement, il explique des réponses au qu'est-ce que le bien, qu'est-ce que le mal.
Oui.
Il t'explique le destin, il explique tu as un destin et que tu retrouves ta liberté d'être en comprenant que tu as un destin, mais il ne t'explique pas pourquoi...
Tu as un destin.
Tu as un destin. Mais j'ai peut-être pas encore tout compris.
Oui, peut-être qu'il l'a expliqué.
Peut-être qu'il l'a expliqué.
On passe ensuite à un autre jeu. Je vais citer trois actions et tu vas me dire quel philosophe, d'après toi, serait le plus à même de faire cette action ou non. Passer tout son temps dans sa bibliothèque.
Le premier nom qui viendrait à l'esprit, c'était Kant.
C'est vrai.
Mais je pense que beaucoup de philosophes ont passé pas mal de temps dans leur bibliothèque.
Ma prof de philo, du coup, en terminale, disait que Kant est sorti deux fois de sa routine de bibliothèque pour deux événements, mais je ne me rappelle plus lesquels.
Oui, on pouvait régler ses montres sur la promenade de Kant, parce qu'il se promenait toujours à la même heure.
Abandonner ses enfants.
Celui qui est connu pour ça, c'est quand même Rousseau.
Oui, sacré personnage. Partir gagner une guerre.
Alors, il n'est pas parti gagner une guerre pour une raison philosophique, mais il en a tiré une certaine philosophie. Et pour cela, je citerai Marc Aurèle.
Je ne connais pas du tout Marc Aurèle.
Tu peux lire les pensées de Marc Aurèle.
D'accord, j'irai du coup. Si tu pouvais inviter un philosophe à prendre un café avec toi, mort ou vivant, ça serait qui et pourquoi ?
Déjà, il faut pouvoir déterminer qui est un véritable philosophe. Mais j'aurais bien aimé rencontrer Camus, parce que c'est quelqu'un qui était angoissé, et comme je suis quelque part angoissé.
On ne dirait pas ? On ne dirait pas que tu es angoissé.
Ah ben.
C'est bien caché.
C'est bien caché.
Oui.
Et c'est quelqu'un qui a pour moi vécu pleinement sa vie. Bon, il est mort. Peut-être une mort tragique et brutale.
C'est un accident de voiture, non ?
Oui, tout à fait, c'est un accident de voiture. Mais il a appris la vie à pleine main et j'ai l'impression parfois que je suis pas assez j'ai trop de retenue pour prendre la vie à plein bras.
Ok, donc tu lui demanderais ses conseils pour comment faire. Ok. Et moi je pensais que tu allais dire Spinoza, même pas.
Spinoza, déjà, oui, Spinoza, mais l'un n'empêche pas l'autre.
Ok, ben on reste sur Camus.
Voilà.
On finit toujours le podcast par, vu que j'ai posé beaucoup de questions, donc c'est normal, je renvoie l'appareil. La question que tu as pour moi est le livre, ou en tout cas le philosophe que tu aimerais absolument que je lise.
La question que j'ai pour toi est une question philosophique.
Oh là là.
C'est quoi pour toi demain ?
Demain ? Une très bonne question. Moi, je pars du principe qu'il faut vivre comme s'il n'y avait pas de lendemain possible. Donc, par exemple, je me lève le matin. Tout ce que j'ai envie de faire dans ma journée, je le fais sans avoir de regrets. Je me dis, autant avoir des remords, mais pas de regrets. Tu réfléchiras après. Vraiment, je vis comme ça. Donc, je dirais que je vivrai demain comme une infinité de possibilités qui restent à faire.
Et donc, tu me dis, tu décides des choses sans réfléchir.
Non. Non. C'est pas bien, ça, de me prendre à mon propre... Non, je fais... Non. Je fais toutes les choses que j'ai envie de faire sur le moment. C'est-à-dire que je me lève avec une idée, j'y réfléchis quand même, et je vois si c'est possible, je vois si c'est quand même une bonne idée, parce que des fois, avoir des idées, elles sont pas toutes bonnes. Une bonne idée, on dit que c'est une idée qui reste longtemps dans la tête. Donc, j'ai l'idée et je la fais. Je réfléchis avant de la faire et ensuite je la fais. Et vraiment, je me lève le matin et je me dis, remets pas de moi en main ce qui peut être fait le jour même. Donc, j'essaye de faire un maximum de choses.
Donc, pour toi, la vie, c'est l'action.
Oui. Ouais, non, ouais. Ouais, effectivement. Après, je pense qu'avec l'âge, ça sera moins l'action. Ce sera peut-être plus la réflexion, la contemplation. Mais en fait, je me dis, tant que je suis jeune, j'ai les capacités de faire les choses, c'est le moment. Et après, effectivement, quand j'arriverai à un âge où la santé, où mon corps peut-être me lâchera, je me dirai, ben, c'est le moment de réfléchir justement à ce que tu as fait. Et tous les souvenirs que tu as pu créer, ben, du coup, ils resteront dans ta tête. Parce qu'en fait, je ne sais pas si vous voyez, mais quand vous vivez, par exemple, un moment difficile, vous avez la douleur, etc., en fait, vous vous raccrochez à tout ce que vous avez vécu avant et justement au moment, on va dire, un peu heureux ou quoi que ce soit, où vous vous sentez bien pour vous dire, ben, ok, là je souffre, mais je connais ce sentiment-là et ben, je vais faire tout pour essayer de le retrouver, etc. Et voilà. Donc, ouais, non, je pense que je me raccroche à ce petit type d'action pour avancer. J'aime pas être triste, être déprimée, donc j'avance, quitte à me prendre des murs des fois, très clairement. Mais oui, donc c'est pour ça que je verrai demain comme une infinité de possibilités qui restent à explorer, faire en termes de curiosité, etc. Et comme je dis, il faut vivre le moment présent pleinement. Bon, oui, il faut avoir des projets, etc. C'est bien, mais tout ce qu'on a envie de faire aujourd'hui et qu'on a en capacité de le faire, il faut le faire. Bon, des fois, mon copain, il regrette, hein, parce que quand il se retrouve à faire 8 heures de randonnée, parce que j'ai décidé qu'on avait la capacité de le faire. Mais bon, ça offre aussi une certaine, détermination. On apprend aussi, parce que mine de rien, quand on est dans l'adversité, on réfléchit. Et oui, donc, ouais, non, je pense que je verrai comme ça. Non, t'en penses quoi ? J'ai bien répondu, ça va.
Ah, j'ai pas de jugement à porter. Je pense que effectivement, ce dont on avait évoqué, c'est que le philosophe qui reste dans la philosophie sans agir n'a pas beaucoup d'intérêt.
Oui.
On parlait de Montaigne, effectivement, qui avait des réflexions philosophiques, mais qui étaient tout à fait adaptées à la vie quotidienne. Il prenait la vie quotidienne, il en tirait des leçons. Lui, parler. Effectivement, au paragraphe précédent, on avait parlé d'abandonner ses enfants. Lui, il ne savait pas trop combien il en avait. On ne sait pas quel mieux, mais je pense que l'équilibre est à trouver entre l'action et la réflexion. La raison, quand on appelle une attitude raisonnable, l'utilisation de la raison, tu te remarqueras sans doute que la plupart des décisions que tu prends sont des décisions, je dirais, instinctives, qui sont okay. motivées par l'environnement, par les gens que tu rencontres et aussi par, entre guillemets, par la facilité. Le fait d'utiliser la raison proprement dit, ça oblige à ralentir, ça oblige à choisir entre différentes alternatives, mais ça prend beaucoup plus de temps et c'est aussi un frein à l'action. Donc il faut trouver un équilibre entre ces deux usages, je dirais, de l'action et de la raison, mais il faut que les deux soient là, parce que s'il n'y en a qu'un qui prédomine, ça ne sert pas grand-chose.
Et du coup, quel livre t'aimerais que je lise ?
Je ne te conseillerais pas, je vais en revenir à Spinoza, je ne te conseillerais pas de lire forcément l'éthique en premier lieu, mais il y a beaucoup d'auteurs qui ont eu cette capacité d'analyser l'éthique et d'en ressortir ce qu'on appelle la substantifique moelle. Donc, comme Robert Mizrahi ou d'autres contemporains qui ont lu Spinoza, qui en ont compris des choses et qui en ont extrait les principes essentiels. Et donc, ça te permet ensuite, quand tu auras lu pas mal, entre guillemets, d'environnement autour de Spinoza, peut-être de t'en attaquer à l'éthique, qui pour moi, une recherche mathématique, enfin, l'application d'une démarche mathématique à une recherche philosophique. Et les mathématiques, pour moi, sont la science exacte, qui dépasse, entre guillemets, énormément de choses.
Ah oui, mais c'est très rationnel.
C'est la raison portée à son paroxysme.
Oui. Non, mais... Ok, bah, du coup, je suis prête pour lire beaucoup avant de m'attaquer à Spinoza. Non, effectivement, mais Spinoza, c'est quand même très compliqué à comprendre.
Oui, c'est compliqué à comprendre, mais il y a beaucoup de gens qui ont lu, il y a des gens qui sont spécialisés et qui t'aident à aborder, à simplifier les choses, à les rendre plus abordables au premier abord.
Merci en tout cas pour avoir répondu à toutes mes questions, etc. Et j'espère que ça vous donnera envie de voir la philosophie autrement. C'est des réponses que moi j'ai données, donc vous pouvez complètement penser autrement. Pourquoi est-on là ? Pour faire évoluer le monde ? Qu'est-ce que le bonheur ? Vivre, rire et relativiser ? Faut-il croire au destin ? Toujours, on ne perd rien à ne pas y croire. C'est qui disait ça ? Je crois que c'est... C'est Descartes qui disait...
C'est le pari de Dieu, ça.
Oui, c'est ça. Je ne sais pas si Dieu existe, mais en tout cas, je pars du principe qu'on ne perd rien de ne pas y croire.
Ou Pascal, je ne sais plus.
Ouais, non, c'est peut-être Pascal. Oui, non. Donc, je pars du même principe sur toutes les choses qui m'arrivent. Si le destin existe, oui. Si le malheur existe, moi. Mais ok. Du coup, j'espère que cet épisode vous a plu et que vous voyez moins la philosophie justement comme un trauma de lycée. Je vous ne demande pas de lire de la philosophie parce que ça peut être vraiment prise de tête. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je garde un très mauvais souvenir de Schopenhauer. Mais j'espère qu'au moins ça vous a donné envie de réfléchir et de vous créer justement votre propre philosophie ou inspiration de vie. Et c'est justement, je me disais que c'était ça le secret du bonheur. Surtout, n'oubliez pas de lire et on se retrouve très très vite pour plein de nouveaux épisodes.